Poignet. Cette semaine, Virginie Despentes et Élodie de Glaire rencontrent Jean-Claude Fasquel. Ce soir, la chance, il faut l'aimer, la garder, la cajoler.
Jean-Claude Fasquel, 1966, premier Goncourt Edmond Charleroux. Qu'est-ce que ça change dans la maison ?
Oh, ça portait le bonheur. Le bonheur, c'était le... Et puis quand même, la reconnaissance de ce que... Oui, une reconnaissance du travail qu'on avait fait quand même. Ça nous a fait plaisir. D'autant que ce Goncourt de 66 a été suivi par toute une série de grands prix littéraires la même année. Quand il y a eu le Médicis, le l'Interallier, je sais pas, eu 6 prix, je crois.
Les 6 prix, c'est parce que petit à petit, la profession reconnaissait la valeur du travail que vous faisiez, ou ça a été un coup de chance, ou ça a été un travail de...
Voilà, le mot qu'on n'a pas oublié de prononcer depuis qu'on se parle, parce qu'il est capital, il sous-tend tout. C'est chance. Édition, c'est chance. Et la chance, il faut l'aimer, il faut la caresser, il faut la garder, il faut la cajoler.
La célébrer quand elle arrive ?
Quand elle arrive, puis pas la rater. Parce que ça l'avait avec ce vexe. Non, non, très important la chance. Donc, oui, c'est et la chance, et finalement, le résultat d'un travail, d'avoir rassemblé des auteurs comme ça qui ont. Mais si vous regardez bien, c'est tous les auteurs qui n'entraient pas dans le modèle NRF, a priori.
C'est-à-dire ?
Ben, prenez par exemple le Goncourt d'Edmond Charleroux, c'est un auteur qui privilégie le récit, l'histoire, les couleurs, et pas désespérément le sens, le message, ni une certaine forme, comme le nouveau roman, la liberté. Ça s'appelle comme ça. Et ça a marché cette année-là et après aussi.
Parce qu'à ce moment-là, les éditions Gallimard sont vraiment prépondérantes dans le paysage littéraire français ?
Ah, complètement.
Ça vous agaçait ? Ça vous motivait ?
Disons que ça nous éprenait. Oui, c'était... Enfin, moi, personnellement, en tout cas. Mais c'est très compliqué, parce que... Il y a toujours ce vieux rapport historiquement conflictuel entre Grasset et la NRF, qui remonte à la création des deux maisons. Bon, mais à part ça, il y a les réalités. Les réalités, il y a eu cette domination de Gallimard très forte que moi j'ai subi surtout dans les années 50 et au début des années 60, et qui a été ressentie jusqu'au moment où... Gallimard a quitté la distribution d'Hachette pour créer sa propre distribution, son propre livre de poche, et devenir une entreprise, alors que c'était une maison d'édition, uniquement. Et surtout, nous sommes retrouvés avec Hachette derrière nous, au lieu de l'avoir souvent dans les pattes. Et ça, c'était un changement important. Donc, 66, oui.
Oubliez Palerme, Edmond Charleroux se vend à combien en 66 ?
Très bien. Je dirais, je ne sais pas, 250 000 exemplaires, peut-être.
Mais alors, 1966, un prix Goncourt, ça s'obtient comment ? Vous envoyez le livre, vous essayez de convaincre les jurés de le lire, ou ça commence déjà à être un travail de persuasion un peu plus précis ? Comment ça se passe à ce moment-là ?
Edmond Charleroux, on s'y attendait tellement peu que c'est le jour que nous avions choisi pour emménager ici, dans cette maison où vous vous trouvez. Et Moi, j'étais rue des Sapeurs, ma femme était ici dans les cartons. Quand le téléphone était coupé, il n'y avait pas de portable. Alors, j'ai envoyé ma secrétaire la prévenir de... Voilà. Et ma secrétaire lui a dit, mais on a eu le concours avec Edmond de Charleroi. Il faut que vous soyez vers 5 ou 6 heures rue des Saint-Pères. Et elle a ajouté, je vous conseille d'aller chez le coiffeur. C'est pour dire que c'était la surprise totale, quoi. Totale.
Surprise totale aussi, puisque premier Médicis, Marie-Claire Blais, première Interalliée Kléber et Dins, mais Jules Roy aussi, premier prix de la Société des gens de lettres.
Oui.
L'année 66 est celle de la transition et de la continuité de ce travail de toutes ces années.
Oui, c'était une récompense, on était heureux, puis ça faisait des sous. Tout le monde a eu une prime. C'est bien.
Et à partir de ce moment-là, est-ce que vous avez changé d'attitude par rapport au prix littéraire en décidant d'en obtenir régulièrement, ou est-ce que vous avez compté sur la chance? Comment ça s'est...
Je pense qu'à partir de ce moment-là, on a commencé à y croire. À croire que c'était possible. Et que donc, dès lors que c'est possible, il faut essayer. Et puis, à ce moment-là, je crois que les jurés ont changé un peu. Il n'y a pas eu des changements dans les jurys. C'était plus accessible d'avoir les prix.
Est-ce que les auteurs, les écrivains d'autres maisons cherchent à vous rejoindre, à rejoindre Grasset, au moment de cette année 66?
Je ne veux pas souvenir qu'il y ait une influence immédiate. Peut-être que ça se passe plus tard. Je veux dire, par exemple, il y a une année qui a été très exceptionnelle comme ça. C'était l'année où Bianchotti, Rinaldi, Weyerganz, je ne sais plus qui est un quatrième d'un écrivain connu, ça, a quitté Gallimard pour venir chez nous. Ça, c'était pour moi un signe, ce qui était important. Mais autrement, c'est des choses qui se passent au fur et à mesure, des gens qui... Ce qui est vrai, c'est que... on a essayé de recruter à ce moment-là des journalistes qui pouvaient devenir romanciers. Parce que il n'y en avait pas beaucoup. Et parce que, à l'époque, le jury du prix Interallié était fidèle à ce pourquoi il avait été créé, c'est-à-dire des romanciers journalistes, ou des journalistes romanciers. Bon. Et alors, c'est comme ça qu'on a poussé beaucoup des gens comme Schoendorfer ou Lucien Baudard à écrire des romans. C'était pas très compliqué d'ailleurs, parce que un écrivain comme Baudard, et quand il faisait de la non-fiction, c'était déjà du roman. Mais ça a fait du coup des écrivains magnifiques. C'était pas du tout. Moi, je suis fier de ça, d'avoir cassé cette frontière entre l'écriture journalistique et l'écriture littéraire. Avant, on disait, ah oui, il y a du personnage extraordinaire, Kessel, je sais pas qui. On a fait ça. Et on a fait, je pense, une série d'écrivains féministes qui n'étaient pas des féministes syndiqués. Mm-hmm. C'était vrai, qui étaient des écrivains, écrivaines, on dit aujourd'hui, qui simplement avaient envie d'écrire sur la condition féminine, les problèmes, etc.
Oui, parce que vous avez travaillé notamment avec Christiane Rochefort, par exemple, qui était très...
Non, Christiane Rochefort, ça c'était avant, c'était ouais. Naturel. Ça lui venait tout seul. Mais des gens comme Marie Cardinal...
Benoît de Groult. Malé Joris.
Marcelle Malé Joris aussi. Mais elle aussi, c'était... On ne lui a jamais suggéré ses sujets.
Parce que vous avez compris tout de suite que c'était important, le féminisme, que ça avait quelque chose à voir avec la littérature, oui.
Oui. Surtout, ce qui m'agaçait, c'était de voir le féminisme confisqué par les éditions des femmes, des choses comme ça, avec des livres à peu près illisibles. Nous, on a fait du bon travail, et c'est même avec la valoir qu'on lui a donnée que Gisèle Halimi a pu faire son...
manifeste.
Son machin, son histoire électorale. Voilà, quand même, son parti a fait 400 000 voix, mine de rien. On va me dire que ça a coûté la victoire de la gauche à l'époque.
Mais ça valait le coup.
Dans des choses comme ça, ça c'est amusant à faire. Là, on peut modifier un petit peu le cours des choses. Mais pour le reste, c'est comme partout dans le métier. C'est les auteurs qui font les maisons d'édition, c'est pas le contraire. C'est comme ça.
Cette idéologie féminine est portée par le roman, plutôt, d'ailleurs.
Oui. Pas forcément. Ainsi soit-elle de Benoît de Gould, c'est pas un roman. Et ça a été un livre très... qui a un poids énorme chez les jeunes femmes. C'est pas un roman, mais c'est écrit par une romancière.
Et Ainsi soit-elle est un livre dont elle avait eu l'idée ou dont vous avez eu l'idée ?
Elle en a eu l'idée.
Elle en a eu l'idée.
Quand elle m'en a parlé, même, je lui ai dit que j'étais complètement piqué. Fais-le, mais fais publier ton troisième roman avant. Non, non. Je lui ai dit que ça n'a pas marché beaucoup.
Et puis ça n'a pas mal marché.
C'est pas que c'est pas le marché, je crois que j'en ai fait 600 000 exemplaires. C'est énorme.
Et cette même année 66, vous participez à la création du magazine littéraire ?
À la création, non. C'est Guy Chidbon qui a créé le magazine littéraire.
Oui.
Nous, on assistait à des réunions préparatoires à l'époque, parce qu'il a voulu mettre quelques éditeurs dans le coup, etc. Enfin, il l'a créé tout seul. Et puis, ma femme et moi, nous l'avons racheté...
des années plus tard.
Quelques années plus tard. Pas beaucoup d'années, d'ailleurs. 3 ans après, je crois. Ah.
Pourquoi Chidbon vient vous chercher, vous, en 1966, pour vous associer à ce projet du magazine littéraire ?
Il n'est pas venu le chercher exactement. C'est-à-dire, je l'ai rencontré à dîner chez Françoise Verdier un soir. Voilà, on a parlé comme ça. Et puis, je suis rentré ici, j'ai dit, ma femme était avec la grippe. Je l'ai réveillé pour lui dire que on avait acheté un journal.
Qu'est-ce qui vous séduit dans cette idée d'acheter un journal ?
Je connaissais bien le journal. C'est bien le journal. Je connaissais bien les chiffres, je connaissais tout ça. Je connaissais Brochier, qui était rédacteur en chef. En gros, c'était tous mes copains, tout ça. Mais plutôt à côté de l'édition. C'était pas... Et puis, voilà. Ben, c'était... On a beaucoup hésité. Puis un jour, j'ai dit à ma femme, écoute... On va proposer à Chidbon la moitié de ce qu'il demande. Il va dire non et puis on sera tolérassé. Il a dit oui. C'est comme ça que les choses se passent.
Et qu'est-ce que c'est pour vous un bon magazine littéraire ? Ou un bon critique ? Quelle qualité ça réclame ?
Les qualités, c'est d'abord de lire. Pas de faire une critique avec le prix à l'insérer.
Ouais.
Et pour ça, il n'y a pas 36 solutions, il faut prendre des jeunes.
Des jeunes ?
Oui.
Pourquoi ?
Prendre des gens qui ont envie de faire ça, quoi, si vous voulez. Il n'y a pas de critique connue au magazine littéraire. Pas beaucoup, en tout cas. Je ne dis pas qu'on donnait des livres à lire à n'importe qui, mais... Il y avait un gros turnover de lecteurs qui faisaient des papiers. Et puis, le magazine littéraire, c'était aussi, et peut-être surtout, les dossiers, presque comme une collection de poches. Mm-hmm. Et moi, c'est une chose dont je suis le plus fier, c'est que un jour, j'ai eu le Frankfurter Allgemeine Zeitung en allemand, qui a sorti une double page sur le magazine littéraire, avec les illustrations des couvertures du magazine, etc. Et en titre, Frankreich, du hast es besser. France, tu as le meilleur. Alors ça, tout de même, après quelques années après la guerre, ça fait plaisir. Oui. Je l'encadrais, d'ailleurs, il est là, à mon bureau.
Et alors, on arrive dans les années 70, Jean-Claude Fasquel et les nouveaux philosophes. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est un succès énorme. Comment ça s'est fait? Comment
ça
s'est
passé? Ça aussi, c'est l'idée. Comment ça s'est fait, je vais vous dire après. Mais donc, dans quel terrain c'est tombé, si vous voulez? C'est cette idée de sortir du ghetto des genres littéraires.
Voilà. Fiction, non-fiction.
Et des philosophes, à l'époque, philosophe, ça voulait dire illisible. Ou sauf pour des grosses têtes. Et quand j'ai vu arriver ce jeune homme, qui est seulement enthousiaste, etc., mais qui doutait de rien, il nous avait enfilé trois collections d'un coup, plus son livre, plus je sais pas quoi. On s'est dit, ben, allons-y gaiement. Et Bernard Privat était complètement séduit. Il dérangeait personne dans la maison.
Ce jeune homme, Bernard-Henri Lévy, oui. La barbarie à visage humain.
Voilà. Oui, mais à l'époque, ce n'était pas La barbarie à visage humain.
C'était un livre qui devait s'appeler Bangladesh, le nationalisme dans la révolution,
qui se passait en Inde.
André Glucksmann, maître penseur.
C'était en 72 qu'on a sorti, au mois de juin en plus, cette idée de sortir des bouquins de philosophie au mois de juin, quand tout le monde pense au maillot de bain. Enfin bon, en juin, on sort le livre de Glucksmann, La barbarie à visage humain de Bernard et Lévy.
En juin, tous les deux.
Oui.
D'accord.
Et ça fait le phénomène des nouveaux philosophes, la fameuse émission de Bernard Pivot qui a lancé tout ça.
Et donc les nouveaux philosophes font l'émission de Bernard Pivot juste avant l'été, et ça devient la philosophie hip-hop, philosophie...
Ça devient un livre de plage. C'est des deux livres de plage, d'ailleurs.
Qui se vendent à combien d'exemplaires?
Bon, je vous dirais des bêtises. Mais très très bien.
Et ça, est-ce que ça va changer l'ADN de la maison Grasset? Ça va changer la maison Profondeur ou pas du tout? Parce que Bernard-Henri...
Ça va changer la maison. Ça a changé la maison parce que Bernard s'est donc installé dans la maison. Il est devenu collaborateur de la maison, directeur de collection. Oui. Ben oui, c'est ça qu'il voulait. Et puis voilà.
Et qu'est-ce qu'il va apporter à la maison? Qu'est-ce qu'il va changer chez Grasset? Quel travail il va effectuer chez Grasset?
Ben d'abord, il va nous amener des d'autres philosophes, genre Michel Serres, etc. Michel Onfray, non, est arrivé par la poste.
Et plus tard.
Plus tard. Mmh. Bernard-Henri Lévy a tellement de présence que mon grand-père m'avait raconté la même chose à propos de Zola. Et en particulier, j'ai retrouvé aussi dans les dossiers des lettres de Barrès qui étaient publiées à l'époque et qui a quitté Fasquel parce qu'il disait qu'il n'y en avait que pour Zola. Dans la maison, voilà. Donc il y a des gens qui disaient qu'il n'y en a que pour Bernard. Mais pas bon. Ça fait partie des choses de la vie.
Est-ce que vous êtes surpris, en 72, que la fiction, mais surtout la non-fiction, vende presque aussi bien que la fiction à cette époque, grâce à Bernard-Henri Lévy et André Glucksmann? Est-ce que c'est une surprise?
Oui, c'est une surprise. C'est une surprise. C'est une surprise qu'on était prêt à avoir, je ne sais pas comment vous dire. J'étais dit que ça. Il y avait tellement d'énergie chez ce garçon qu'il était capable de renverser les murs.
Mais vous pensez aussi que les lecteurs avaient changé? Que les lecteurs étaient prêts à lire quelque chose qui ne soit pas de la non-fiction, à chercher autre chose dans l'objet livre que.
Oui, ça on le sait, on le savait. C'est des choses sur lesquelles le magazine Littéa m'a beaucoup aidé. parce que j'avais des retours au magazine littéraire, de lecteurs, des lettres de lecteurs, des choses comme ça, qui permettent de mieux... Chez Grasset, on n'a pas beaucoup de lettres de lecteurs. Ils écrivent aux auteurs, les gens.
Alors que via le magazine littéraire, vous aviez comme une interface plus directe avec, avec les lecteurs, et ça vous permettait d'imaginer ce qu'ils étaient prêts à lire ou à...
Ben, ça m'a beaucoup aidé à comprendre le lecteur, à comprendre ses réactions. Oui.
Est-ce que ces deux succès-là vous ouvrent en tout cas la possibilité de pouvoir publier désormais des essais et des documents ? Est-ce que c'est un moment charnière qui permet de penser à des écrivains en essais et en documents ?
Oui, parce que non seulement le succès est là, tout de suite, ce qui est déjà très rare dans ce genre d'entreprise, mais surtout, ils amènent des auteurs que nous n'avions pas, nous, la possibilité d'approcher, faute de connaître leur univers. Et Bernard a apporté tout un tas de gens pour Jean Bellandreau. Alors après, beaucoup de gens se sont pas sentis, n'ont pas voulu se reconnaître dans les nouveaux philosophes. Donc il y en a qui sont, on a continué de publier autrement, et d'autres qui sont repartis chez leurs éditeurs, d'autres qui sont... Ce serait amusant d'ailleurs de faire un livre là-dessus un jour.
Sur les nouveaux philosophes et tout ce...
Comment ça s'est dépatouillé ?
Comment ça s'est dépatouillé ? Et justement, par rapport à la diversité des auteurs, parce que peut-être que quelque chose qui caractérise Grasset, c'est la diversité des auteurs, des formes, mais aussi des auteurs. Comment, est-ce que c'est quelque chose, vous, qui vous plaisait beaucoup, ou c'est quelque chose qui s'est fait comme ça ? Et en tout cas, comment est-ce que vous l'avez géré ?
C'est vraiment fait comme ça.
Et ça a été difficile à gérer pour vous ?
Non. Non, pas plus difficile. Je veux dire, c'est difficile à gérer. Les auteurs, c'est pas simple, mais...
Qu'est-ce qui est le plus difficile avec un auteur ?
La patience, peut-être. Il faut avoir...
Pour le supporter ou pour attendre son texte ?
Pour attendre son texte.
À propos de patience, je me souviens d'une anecdote que vous m'aviez racontée, Jean-Claude. Un auteur qui vient vous menacer dans votre bureau, chez Grasset, avec un pistolet ?
Avec un pistolet, oui. Oui, mais c'était une expérience intéressante.
Comment ça s'est passé ?
C'est passé qu'il est entré dans mon bureau.
C'était qui ?
C'était Jacques Thiolois. Et il est entré dans mon bureau avec un Beretta. Et il m'a dit, je suis venu pour vous tuer. Et puis, bon, on retourne dans la conversation en parlant. Et puis voilà.
Pourquoi il rentre pour vous tuer ? Avec un Beretta ?
Parce que il avait écrit un livre où il disait que les élites s'étaient azigouillées, etc., en France, et ils mettaient leur nom et leur adresse dans le livre. Et moi, je lui ai dit, je ne veux pas les adresses. Parce que on ne peut pas publier ça quand même.
Non, en même temps, pour les zigouiller, c'est plus facile, mais c'est pas...
Oui, mais bon. Et alors, il voulait absolument que je publie ce truc, la censure, machin, etc. Et ça s'est terminé, la réunion. Il avait accepté donc de ne plus me tuer, et ce qui était déjà pas mal. Et puis, la réunion s'est terminée parce que... Il disait, mais qu'est-ce que... J'ai mon copain qui m'attend avec la voiture en face. Comment je peux lui dire que je ne l'ai pas tué ? Ça, c'est des gags.
Et qu'est-ce qu'il a dit à son copain ?
Qu'il allait être publié.
Non, je lui ai fait une lettre en disant que j'avais pris note de toutes ces observations et qu'en dehors des adresses des personnes, on ne toucherait pas à son livre. Alors, ça allait très bien. C'est pas question de toucher à son livre, en dehors des adresses. Donc, et lui était content, il avait une lettre. Ça s'est passé comme ça. Et alors, après, bon, j'ai été obligé, quand même, parce que. On m'a beaucoup critiqué dans la maison de ne pas avoir appelé la police, de ne pas avoir voulu porter plainte, etc., etc. En me disant, le type est dangereux, il est capable de, il peut revenir, on a des enfants, etc.
Mais ce qui est étonnant, c'est que vous le publiez quand même.
Ah ben oui, mais c'était bien, le livre. Oui.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Virginie Despentes et Élodie Deglaire avec Jean-Claude Fasquel. À voix nue, réalisation Julie Béressy, prise de son Clémence Bonfils, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.